L'association Un cœur, une voix poursuit son action pour dégeler le corps électoral. Un parcours compliqué, a expliqué son président Raphaël Romano, qui était notre invité ce matin. La province des Îles va devoir engager un plan de réforme de ses dépenses publiques sur un an, injonction de la Chambre territoriale des comptes, alors que le déficit de la collectivité équivaut à 49% de ses recettes de fonctionnement. 30 personnes arrêtées, 10 tonnes de cannabis saisies. La police néo-zélandaise a démantelé un important réseau de fabrication et de vente de cannabis. En métropole, nouvelle mobilisation syndicale le 2 octobre, manifestation de force du MEDEF le 13 octobre. Ça bloque encore entre les partenaires sociaux et le nouveau Premier ministre sur le budget. Et puis du football dans la page sport avec l'entrée en lice de Nice en Europa League. Entrée ratée face à l'AS Rome et défaite 2-1 à domicile pour les Aiglons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Apprendre l'entreprise dès le lycée, c'est un projet pilote mené au lycée Jules Garnier avec des classes de seconde, première et terminale. Et il pourrait aussi bientôt se déployer dans plusieurs endroits du territoire grâce à un bus itinérant. Nous en parlerons ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous serons en compagnie de Julie Micheli, qui est chargée de mission école-entreprise au vice-rectorat et professeure d'éco-gestion au lycée Jules Garnier. C'est elle qui pilote ce projet. Elle sera accompagnée dans l'émission par une élève de première, Lissica Pouillet, Cynthia Coindredi, la directrice territoriale de l'ADI, et Bénédicte Barré de la SECAL, qui accompagne des élèves dans ce parcours entrepreneur. Ce sera donc dans les Jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de ce journal. La décision du Conseil constitutionnel est un aveu de faiblesse et d'impuissance. C'est ce qu'affirme Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, qui était notre invité à 7h30 pour revenir sur le projet de la question prioritaire de constitutionnalité concernant le gel du corps électoral, Elisabeth Noir.
Vous le savez, le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi que le gel du corps électoral est conforme à la Constitution parce qu'il a été constitutionnalisé au travers de l'accord de Nouméa. Et il affirme que les dispositions transitoires inscrites dans la Constitution ne sont pas caduques. Une décision décevante, bien sûr, pour le président de l'association Un cœur, une voix, mais cela ne le surprend pas, même s'il rappelle que c'est le Conseil d'État qui a transmis la QPC au Conseil constitutionnel.
Pourquoi le Conseil d'État transmet au Conseil constitutionnel ? Parce qu'il estime que l'évolution démographique a changé et que la situation a changé par rapport aux autres QPC et on est hors du cadre de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il a été accepté et validé par les anciens membres du Conseil constitutionnel et je vais juste vous citer trois extraits. Un de Christian Blanc qui dit « L'accord de Nouméa est transitoire. En toute hypothèse, les dispositions qu'il contient prendront fin en 2018 au plus tard. Après, il y aura autre chose. Mais en tout état de cause, ce sont des règles transitoires. Aujourd'hui, elles sont acceptées parce qu'elles sont transitoires. Ce sera soit l'indépendance, liant le droit de vote au nouvel État, soit le droit de vote attaché à la citoyenneté française. Et le dernier, Christian Paul, ce périmètre constant du corps électoral vaut pour les élections durant la période transitoire de 2009 ou 2014. Michel Vaxès, je soulignerai que seules deux consultations locales, celles de 2009 et 2014, sont concernées par cette limitation du corps électoral. En affirmant que le pouvoir constituant n'a fixé aucun terme au gel du corps électoral, le Conseil constitutionnel ignore tous ces débats parlementaires et tout ce que ses pairs ont décidé.
Et Raphaël Romano dénonce un réel manque de courage de la part du Conseil constitutionnel.
C'est un réel manque de courage parce qu'on voit les trois déclarations que je viens de vous lire, elles sont limpides. Le corps électoral, il était prévu de façon transitoire à un moment donné. Pour la Nouvelle-Calédonie, 20 ans, 3 référendums, les Calédoniens se sont exprimés. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne sert plus à grand-chose puisqu'il ne protège plus les citoyens. On prend l'exemple du corps électoral, mais ça voudrait dire que quelque chose de très grave, si c'est inscrit dans la Constitution, le Conseil constitutionnel dirait « ben c'est comme ça ». Non, il est là pour protéger les citoyens, donc il doit se prononcer. Donc le Conseil d'État nous a donné gain de cause en transmettant la question de prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, lui, s'est caché derrière son petit doigt et n'a pris aucune décision.
Le FLNKS, quant à lui, s'est réjoui de la décision du Conseil constitutionnel. Il a parlé d'un démenti cinglant pour les non-indépendantistes. La réaction de Raphaël Romano.
On ne l'a pas du tout ressenti comme ça. Vous savez, à un moment donné, il faut être lucide. On n'a jamais menti aux Calédoniens et certainement pas aux membres de l'association qui nous soutiennent. On a toujours été clair. La probabilité qu'on aboutisse au Conseil constitutionnel, elle était très faible. C'était l'épaisseur d'un papier de cigarette. Tout le monde nous a dit avant le recours, ça ne sert à rien d'y aller. Vous n'atteindrez jamais le Conseil constitutionnel. Il y a déjà eu deux QPC. Si on ne fait pas les choses, c'est forcément non. Si on fait les choses, c'est oui ou non. Là, c'est non mais peut-être, oui mais peut-être.
Toujours est-il qu'en l'état, le corps électoral reste gelé. Pour le dégeler, il faut modifier la Constitution, ce qui est prévu avec l'accord de Bougival. Mais pour Raphaël Romano, le dégel est de toute façon inéluctable.
Que ça fasse plaisir ou non, que ça soit entendu ou non, le corps électoral, il sera dégelé. Il sera dégelé pas parce que l'association l'a décidé, parce que c'est une ineptie qui n'est plus possible et qui n'est plus tenable. D'ailleurs, tous les Calédoniens, sans exception aucune, devraient être offusqués, choqués de ce gel du corps électoral. C'est plus possible. Il y a aujourd'hui une décision qui doit être prise, c'est la réouverture du corps électoral. Ça sera fait soit de façon juridique, en réformant la Constitution, soit avec un accord politique, ou les deux.
Une interview de Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
L'actualité politique avec cette lettre ouverte de Marie-Laure Ukéoué en tant que femme kanak profondément attachée à la Calédonie et à son avenir dans la République. Elle tient à réagir, Elisabeth, à la déclaration d'indépendance proclamée hier par le FLNKS.
Un FLNKS constitué, écrit-elle, de certains groupuscules extrémistes. Et pour elle, cette déclaration unitaire est hors propos et hors sol. Elle ne reflète en rien la réalité vécue par la majorité des Calédoniens, quelle que soit leur ethnie. Et elle ne reflète pas davantage les aspirations des familles qui, chaque jour, lutte pour se relever des exactions et des violences de mai 2024. Comment oser parler d'indépendance quand notre peuple n'a toujours pas pansé ses plaies ? Interroge Marie-Laure Ukéoué. Dans cette lettre ouverte, elle tient par ailleurs à rappeler avec force que le Sénat coutumier n'est pas un parti politique et que son rôle n'est pas d'alimenter des querelles partisanes, mais d'être garant des valeurs coutumières qui doivent rassembler, non diviser. De la même manière, elle trouve profondément choquante l'implication de l'EPKNC, l'Église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. La foi, écrit-elle, doit être source d'espérance et de réconciliation, pas d'exclusion ni de radicalisation. Pour Marie-Laure Ukéoué, les Calédoniens attendent d'autres choses aujourd'hui. La sécurité, le travail, l'éducation pour leurs enfants, la justice sociale et surtout la paix civile. Ils ne veulent plus être pris en otage par des discours extrémistes qui ne mènent qu'à l'impasse et à la violence. Elle demande l'arrêt des manœuvres de manipulation et elle appelle chacun, et en particulier les jeunes, à la vigilance et au discernement.
Une lettre ouverte dont Marie-Laure Ukéoué viendra nous parler ce soir. Elle sera en effet notre invitée dans le journal de 17h45. La Chambre territoriale des comptes demande à la province des Îles de s'engager sur un plan de redressement sur 5 ans. La CTC a été saisie par le Haut-Commissaire après le vote du compte administratif 2024 de la collectivité le 12 juin dernier, Lionel Sabot.
Il présente un déficit de 6,540 millions de francs. La loi organique prévoit que la Chambre des comptes propose des mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dès lors que le déficit dépasse les 5% des recettes de fonctionnement. En 2024, le déficit de la province des Îles équivaut à 49% des recettes de fonctionnement. La Chambre a donc contrôlé les finances de la province des Îles et a constaté que, malgré les observations formulées en 2017 et 2023, la qualité des comptes de la collectivité ne correspond pas aux standards, notamment en matière de tenue d'une comptabilité d'engagement en dépenses comme en recettes. Compte tenu de l'ampleur du déficit du compte administratif, il ne pourra être résorbé sur un seul exercice. La Chambre territoriale des comptes a donc demandé à la province des Îles d'engager un plan de redressement entre 2025 et 2029 afin de l'apurer progressivement. Un plan qui devra, je cite, impérativement s'accompagner d'une restructuration de la régularité et de la sincérité des comptes. Fin de citation. La Chambre contrôlera annuellement la mise en œuvre du plan. En cas de non-respect par la province de la trajectoire définie par la Chambre, elle proposera des mesures au commissaire qui réglera le budget.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour au lendemain du 24 septembre. Pensez-vous que la fête de la citoyenneté a encore un sens ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h39, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Futur bachelier ou déjà titulaire du bac, tu cherches un diplôme Bac plus 3 ? Découvre le bachelor de l'école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie. Commerce, gestion ou marketing, pourquoi choisir ? 3 ans pour te former à une multitude de métiers. Inscris-toi dès maintenant sur Parcoursup NC jusqu'au 23 octobre. Titulaire d'un Bac plus 2, rejoins-nous directement en deuxième année. Plus d'infos sur www.egc.cci.nc ou au 24 31 40. EGC Nouvelle-Calédonie, inspiré demain.
RRB, 11h-13h,
Infomag, Jean-François Bodin.
La suite du journal avec la suite de l'actualité en Calédonie. Et l'antenne France Volontaire de Nouvelle-Calédonie vient d'achever un stage de préparation au départ pour 7 nouveaux volontaires. Ils seront déployés d'ici quelques semaines au Vanuatu, à Fidji et au Cambodge, Lionel Sabot.
Il s'agit de la deuxième cohorte de volontaires pour cette année 2025. Ils sont donc 7, vous le disiez, à avoir candidaté pour effectuer des missions sur des projets concrets portés et cofinancés par des partenaires tels que la Maison des Francophonies du Vanuatu, l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou encore l'Institut agronomique néo-calédonien. L'antenne France Volontaire Nouvelle-Calédonie existe depuis maintenant plus de 10 ans et Marjorie Botella en est la responsable.
France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui porte le volontariat de solidarité internationale dans le monde entier. Et en Nouvelle-Calédonie, depuis 2012, un accord avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été développé pour en faire aussi un outil de politique de jeunesse, de mobilité, depuis déjà 13 ans. Nous déployons avec les institutions, avec les porteurs de projets locaux, avec différents financements, différents programmes du volontariat de solidarité internationale. C'est du volontariat et pas du bénévolat. Ils ont tous une indemnité, ils ont un cadre légal, ils sont couverts. Ce qu'ils font compte aussi dans leur point retraite. Ils ont une assurance, ils ont tout un engagement pris en charge avec un billet d'avion, un cadre légal, un contrat. En fait, tout est calé et porté selon la législation dédié au volontariat de solidarité internationale.
Le dispositif France Volontaire que l'on connaît existe donc en Nouvelle-Calédonie depuis 13 ans, mais il n'est pas apparu en 2012. Rappelez ce matin l'ambassadrice Véronique Roger-Lacan, représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique.
1985, le Fonds Pacifique, donc qui est un financement qui va avec la création du secrétariat permanent pour le Pacifique, qui est une initiative politique pour favoriser l'insertion des territoires français dans leur environnement régional et lier par des projets un territoire, un État indépendant au minimum. Et donc depuis 1985, on a fait rayonner les territoires et créer des liens avec les États insulaires du Pacifique.
Et pour cette seconde cohorte de l'année 2025, ils seront donc 7 à partir en mission dans quelques semaines. Parmi ces 7 jeunes, Tristan Fejoz, qui a 24 ans, il va être déployé à Fidji, à l'Université du Pacifique Sud de Suva, où il sera chargé d'animation et de communication pour le PURN. C'est le réseau insulaire des universités du Pacifique.
C'est quelque chose qu'on m'a présenté une fois que j'avais terminé mon master. Je suis diplômé d'un master en sciences de la durabilité ici, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et on m'a présenté ça comme une possibilité d'opportunité professionnelle. C'est vrai que j'ai trouvé les missions qu'ils présentaient assez intéressantes. C'est une opportunité qui à pas mettre de côté. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai choisi de continuer dans cette voie. D'un point de vue personnel, j'aimerais enfin comprendre comment marche vraiment le réseau de recherche dans le Pacifique, le comprendre un peu plus personnellement.
S'enrichir personnellement, c'est aussi quelque chose d'important.
Ah oui, c'est vraiment important pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles en fait je suis allé aussi loin dans mes études. C'est vraiment l'envie personnelle de découvrir et d'apprendre. Et grâce à ce travail-là au sein du PURN, je pense que je pourrais continuer. Donc c'est ce qui m'intéresse énormément.
Et ce matin, la cérémonie de clôture du stage de préparation au départ des volontaires de solidarité internationale s'est déroulée en présence, bien évidemment, des volontaires, de l'ambassadrice Véronique Roger-Lacan, que vous avez entendu, du secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat Arnaud Lozier, de Serge Maé, le consul général du Vanuatu, et des représentants des différents partenaires.
Allez, parlons maintenant de l'édition 2025 de la Fête de la Science. Elle approche puisqu'elle débutera le 3 octobre pour se refermer le 13 octobre. Les sciences dont nous avons parlé mardi dans le magazine citoyen que vous animiez, Lionel Sabot, qui est à redécouvrir évidemment sur notre site internet. Cette année, le thème de cette Fête de la Science est basé sur les intelligences. Elle va s'articuler autour de 41 événements répartis dans 3 provinces. 4 événements sont des événements coup de cœur, au travers desquels les Calédoniens pourront découvrir la diversité des intelligences. Écoutez Florent Olivier, c'est le responsable de la cellule de coordination du CRECICAR.
Alors, il va y avoir Astragora, qui est une discussion avec une Calédonienne avec elle. On va parler des intelligences liées à l'astrophysique, mais également aux intelligences extraplanétaires. On va également avoir des échanges à propos de la santé mentale et de la réhabilitation sociale. Il y a également le sujet du corbeau calédonien, qui est un animal endémique. il va y avoir plein d'animations parcs forestiers autour de cet animal. On évoquait tout à l'heure la question de l'intelligence artificielle et de l'éducation et de la transmission. L'ambassadeur de la Fête de la Science, c'est exactement sa spécialité. Il fera plusieurs interventions et en particulier une conférence de clôture le 13 octobre au soir à l'université.
La Fête de la Science, c'est donc du 3 au 13 octobre. Elle s'adresse à tout public et son objectif est de partager au travers différents événements des connaissances scientifiques, mais aussi la manière dont on peut faire le lien entre la science et la vie de tous les jours. L'actualité dans la région, la police néo-zélandaise vient de réaliser un vaste coup de filet dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle a saisi plus de 10 tonnes de cannabis, démantelé des dizaines de serres chauffantes et arrêté 30 trafiquants. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Ce spectaculaire coup de filet a été réalisé à Auckland, où des habitations d'apparence innocente étaient en fait d'importants centres de production et d'écoulement de cannabis. Près de 130 perquisitions de ces respectables demeures ont abouti à la saisie de plus de 10 tonnes de cannabis et au démantèlement de 120 serres où la croissance des plantes était facilitée par un imposant système de chauffage électrique. Au total, la police a procédé à l'arrachage de 11 000 plants de cannabis dont la valeur à la revente a été estimé à plus de 5 milliards de nos francs. 30 trafiquants ont également été arrêtés. La plupart d'entre eux étaient des ressortissants vietnamiens qui font désormais l'objet d'une mesure d'expulsion. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On va marquer une nouvelle pause à 11h47 et se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Crise économique, baisse d'activité, restructuration, face aux défis d'aujourd'hui, votre entreprise doit s'adapter rapidement. Profitez de cette période pour préparer l'avenir. Actionnez les fonds complémentaires relance pour former vos salariés. Préservez vos savoir-faire, anticipez vos besoins et rebondissez par la formation. Rendez-vous sur fiaf.nc, rubrique relance. Le FIAF, votre partenaire formation et compétences.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole. On retrouve Jean-François Bodin.
Sébastien Lecornu consulte toujours car il refuse de passer en force sur le budget, ce qui de toute façon l'exposerait à une motion de censure. Alors le nouveau Premier ministre continue de consulter et il recevait la nuit dernière pour nous les partenaires sociaux. Ce n'est pas une grande réussite si l'on en croit Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui estime qu'aucune des propositions du syndicat n'a été prise en compte par le nouveau Premier ministre.
C'est donc une occasion manquée. Nous sommes extrêmement en colère que 1 million de personne n'ait aucune réponse précise à leur demande. Et donc, c'est pour ça que nous sommes déterminés à continuer la mobilisation avec cette date du 2 octobre.
Voilà, une nouvelle journée de mobilisation syndicale est donc annoncée pour le 2 octobre. Les patrons aussi sont ressortis sans certitude de cet entretien. Le Premier ministre, même si ce n'est pas directement avec la taxe Zucman, réfléchit à une manière de taxer les très hauts revenus des entreprises. Le MEDEF annonce d'ores et déjà un grand meeting le 13 octobre pour que les patrons réaffirment leur position et leurs convictions. Écoutez le président du MEDEF, Patrick Martin.
Il nous paraît nécessaire de rééquilibrer un débat qui a été préempté en quelque sorte très habilement, je dois le reconnaître, par certains et qui sature en définitive les ondes, si vous me permettez, sur les super riches, etc. Le vrai sujet de la France aujourd'hui, c'est de recréer de la dynamique économique.
Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas à quel moment Sébastien Lecornu, nommé maintenant depuis 16 jours à Matignon, annoncera la composition de son gouvernement. Les débats sont déjà régulièrement tendus au Conseil municipal de Paris et le prochain à l'ordre du jour, le 7 octobre, devrait être particulièrement agité. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France demande en effet une réforme urgente de la gestion financière de la capitale. Elle pointe une hausse de 13% des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas couvertes par les recettes. Quant à l'encours de la dette, il a bondi de 9 milliards d'euros fin 2024. Une situation qui n'étonne pas la conseillère LR Nelly Garnier, porte-parole de Rachida Dati.
Ce rapport, il confirme ce qu'on dit depuis 2020, qu'il n'y a aucune maîtrise des dépenses publiques.
Aucune maîtrise des dépenses publiques alors que les Parisiens payent de plus en plus d'impôts locaux dont ils ne voient pas le retour, estime Nelly Garnier.
Cette hausse, elle est déjà mangée par l'intégralité des dépenses non contrôlées de la ville de Paris. On comprend qu'il y a un très fort mécontentement des Parisiens de se dire qu'ils payent toujours plus d'impôts pour toujours moins de services publics.
Et c'est donc le 7 octobre prochain que ce rapport sera débattu par le Conseil municipal de Paris. Les élus socialistes dénoncent la publication de ce rapport alors que démarre la campagne électorale pour les municipales de 2026. L'actualité judiciaire avec l'ouverture d'un procès très suivi en novembre 2023. Claire Géronimi, 23 ans, fondatrice de l'association Éclat de Femmes et vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, était violée dans le hall de son immeuble pendant une vingtaine de minutes par un ressortissant centrafricain sous le coup de trois OQTF, un homme qui avait fait subir le même sort à une autre jeune femme quelques minutes avant. Les deux victimes étaient présentes au premier jour du procès de leur violeur devant la cour criminelle de Paris. Charles Bouchin pour Europe 1.
Deux jeunes femmes, Claire et Mathilde, main dans la main, incisent face à l'homme qui change à jamais le cours de leur vie. Chemise violette, cheveux avec des tresses centrafricains, regarde dans le vide à l'évocation de son lourd casier judiciaire. 11 condamnations, vol avec violence, violence avec usage d'une arme, menace de mort sur un enseignant. Dans sa famille d'accueil, dans la rue et jusqu'en prison, des faits de violence et d'agression sexuelle sont rapportés. Et lorsque la question du droit des femmes lui est soumise, ce clandestin s'emporte. Calmez-vous, lance-t-il sûr de lui. Romain Vanni, l'avocat de Claire Géronimi, n'en revient pas.
On est face à un individu qui a clairement choisi le ton de la provocation. Ce que j'espère, c'est que ça va quand même permettre pour Claire et l'autre victime d'avoir la réponse aux questions qu'elles attendent depuis bientôt 2 ans.
2 années écoulées et ce même traumatisme pour les deux victimes. Cauchemar, crise d'angoisse à répétition, leurs familles, leurs amis témoignent à la barre comme Lucie.
Claire, c'est une femme qui a toujours été hyper souriante, hyper solaire. Et en fait, elle continue de l'être, mais il y a une forme de bataille intérieure entre ce qu'elle a vécu, le traumatisme, et ce qu'elle continue à être.
Questionnée sur ses 3 OQTF, l'accusée répond sur un ton désinvolte. C'est une procédure un peu automatique, avant d'ajouter avec un léger sourire, j'irai là où le créateur m'envoie.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette nouvelle attaque à l'arme blanche à l'encontre d'un professeur. C'est passé dans un établissement scolaire du Bas-Rhin. Une professeure de musique de 66 ans a été poignardée dans les couloirs de l'établissement par l'un des élèves. Le professeur est hors de danger. Quant au jeune agresseur, il s'est porté lui-même un coup de couteau après avoir frappé son professeur et il est entre la vie et la mort. Un jeune garçon au profil inquiétant, Antoine Bienveau pour Europe 1.
Fasciné par Adolf Hitler et par les armes, l'adolescent avait déjà été sanctionné en mars et récemment par l'administration, notamment pour avoir dessiné des croix gammées sur son cahier. Dans le collège, ses camarades le décrivent comme taciturne et solitaire, notamment cette adolescente interrogée par nos confrères de CNews.
C'est quand même une personne impulsive. On savait qu'il avait des problèmes psy. Il avait déjà été arrêté par les policiers parce qu'il dessinait des croix gammées.
Placé à l'aide sociale à l'enfance et en situation de handicap, l'agresseur est parvenu à entrer dans le collège avec son arme hier matin. De quoi relancer le débat sur la mise en place de portiques de sécurité à l'entrée des écoles, selon Elisabeth Borne, ministre démissionnaire de l'Éducation, qui s'est rendue sur place hier.
Moi, je dis que toutes les questions de sécurisation des établissements se discutent en lien avec les collectivités locales. C'est une appréciation qui doit se faire localement, donc ça se regarde au cas par cas.
En juin, François Bayrou, alors Premier ministre, avait déjà proposé l'expérimentation de portiques de détection d'armes après l'agression mortelle au couteau d'une surveillante en Haute-Marne, sans que l'idée n'ait pour l'instant vu le jour.
11h54, la dernière pause de ce journal. Ensuite, ce sera l'actualité sportive. On parlera uniquement de football avec cette défaite pour Nice ce matin pour son entrée en Ligue Europa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Qui a le droit ?
Patrick Bruel vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud le 25 octobre pour son concert époustouflant. Une voix qui réveille les souvenirs, une énergie qui traverse les générations.
C'était les rendez-vous.
Patrick Bruel en concert, un moment rare, vibrant, à vivre absolument le 25 octobre à l'Arène du Sud. Billetterie sur ticketpacific.nc et dans les supermarchés Auchan-Connet, Auteuil et Quai Ferry. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
besoin d'idées pour vos prochaines vacances? Où dormir? Où manger? Que faire? Le Salon Échappée Nord vous donne rendez-vous le samedi 27 septembre de 8h à 18h à la Maison des Artisans à Nouville. Rencontrez et échangez avec les acteurs du tourisme de la Destination Nord. Découvrez des activités originales, des hébergements de charme, des bons plans. Et laissez-vous inspirer par une destination riche, authentique et pleine de surprises. Salon Échappée Nord, le samedi 27 septembre à Nouville. Une journée pour réaliser vos rêves et planifier votre prochaine échappée dans le Nord.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec, je vous le disais, du football et le coup d'envoi ce matin de la première journée de l'Europa League. Il y avait 9 matchs au programme et un club français sur les pelouses européennes, Lionel.
Oui, il s'agissait de l'OGC Nice et les Aiglons qui ont déçu devant leur public face aux Italiens de l'AS Rome. Les Aiglons qui se sont inclinés 2-1 devant leur public. Les autres résultats de ce début de premier tour de cette Europa League avec la victoire 2-0 des Danois de Mitchell sur les Autrichiens du Sturm Graz. Victoire également des Portugais de Braga, 1-0 face aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Victoire du Dynamo Zagreb, les Croates face aux Turcs de Fenerbahçe, 3-1. Dans un duel entre club suisse, Fribourg s'est imposé 2-1 sur le FC Bâle. Et puis les Bulgares de Ludogorets ont eu le bon goût de s'imposer 2-1 sur la pelouse des Suédois de Malmö. Les autres résultats, ce sont des match nul 0-0 entre les Grecs du PAOK Salonique et les Israéliens du Maccabi Haïfa. 2-1 entre les Espagnols du Betis Séville et les Anglais de Nottingham Forest. Et puis 1-1 entre les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade et les Écossais du Celtic Glasgow. Suite de cette première journée d'Europa League demain matin pour nous et deux clubs français qui seront sur les pelouses européennes. Lyon sera en déplacement sur la pelouse des Néerlandais d'Utrecht et Lille recevra Bergen. C'est un club norvégien.
Merci Lionel. Il est 11h57, on va se retrouver dans un instant pour les jeudis de l'économie radio rythme bleu où nous allons parler de l'apprentissage de l'entreprise dès le lycée. A tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.